RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Le final de cette huitième étape du Tour de France, il reste encore du suspense. Et si Liam Sloc parvenait à frustrer tous les sprinteurs, eh bien, c'est peut-être le cas. Ce sera peut-être le cas dans un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure maintenant, l'arrivée à Bergerac. On est à 15 km de l'arrivée, en tous les cas, le peloton, parce que Liam Sloc est passé déjà sous la banderole il y a quelques instants, Pierre-Yves, et qu'il
rien
fait de la résistance. Il fait de la résistance.
Sur les 5 derniers kilomètres, il n'a rien perdu. Il est toujours autour de 1,15, 1,20. Liam Sloc qui fait, Jérôme Coppel, un très très beau numéro, le Belge à l'avant tout seul désormais.
Hein. Ouais, il fait un énorme numéro. Alors on va voir si ça va suffire ou pas, mais si dans l'échappée il avait eu un autre costaud comme lui, un autre moelleux comme lui, ça aurait été très très compliqué pour le peloton. Là c'est d'ailleurs pas perdu hein, encore pour le coureur belge. On rappelle que la fin est quand même un peu j'allais dire tricky, un peu compliqué avec des virages
comment on dit en français déjà
droite, gauche, etc. Donc là pour l'instant il y a des grandes lignes droites, c'est pas son avantage, mais il résiste très très bien.
Et on rappelle hein, donc il a gagné sa première victoire là il y a quelques jours, c'était mi-juin en Suisse, donc en glissant, on l'a raconté tout à l'heure, mais il finit 19e du dernier Tour de Suisse hein, donc c'est un garçon qui est vraiment en forme. Donc attention, 13 km à parcourir, une 13 d'avance pour Liam Sloc.
Il fait de la résistance, on va essayer d'aller voir si Maria a un visuel sur la course et notamment sur ce Liam Sloc qu'elle a observé pendant de longues heures durant cette huitième étape. Maria.
Oui, il est très très costaud hein, Liam Sloc. En effet, je suis restée très longtemps derrière lui. J'ai eu le temps de le voir de derrière. En tout cas, là, je viens juste de repasser devant lui. Donc, j'ai pu un peu l'observer de côté. Voilà, le visage très marqué. Hein. Forcément, ça fait quasiment 165 km qu'il roule, même s'il a été accompagné par deux compères hein, pendant une bonne partie de l'étape. Mais là, il est tout seul. Son maillot, il est plus rouge. Hein. On voit plus beaucoup de peloton Intermarché. Il est surtout blanc, le maillot.
Il y a du sel.
Tout le sel qu'il laisse durant cette étape, ouais, c'est assez impressionnant comment il fait l'effort Liam Sloc. Est-ce que ça va tenir pendant 11 km? En tout cas, il donne tout et dans la voiture de son DS, on l'encourage à fond évidemment. On vise la victoire d'étape et on commence à se dire que peut-être que c'est possible.
Jérôme Pinot, on donne tout là, hein, quand on est à 12 km de l'arrivée, qu'on a encore 1 minute 15, on y croit forcément quand on s'appelle Liam Sloc.
Chaque mètre qui passe derrière dans la voiture, on doit l'encourager, on doit évidemment l'informer de ce qui se passe derrière dans le peloton, surtout de lui dire qu'il perd peut-être 2 à 3 secondes, mais qu'ils sont 3 à 4 équipes à s'occuper de la chasse et qu'ils ne reprennent pas tant de temps que cela. Donc ça le booste évidemment. Lui, il donne tout, il s'arrose, on le voit, il est tout à droite, il a une belle position et surtout il doit être surmotivé d'apprendre et de savoir que le peloton avec 3 équipes derrière lui lancé à vive allure, puisque là il n'y a plus de calcul à faire, bah, ils ne reprennent pas de temps sur le Belge. C'est une sacrée performance qu'il est en train de faire, mais effectivement il est en très grande forme et ça les coureurs du peloton le savent et je peux vous dire que là c'est panique à bord dans les équipes de sprinteurs.
Suspense total pour l'arrivée de cette huitième étape. Sloc va-t-il réussir à fausser compagnie au sprinter? Eh bien, la réponse dans quelques instants. On fait un détour par Wimbledon parce que Eric est arrivé un peu plus tard. Aujourd'hui, la finale dames qui va débuter dans quelques instants. C'est les internationaux de Grande-Bretagne ou de Tchéquie? Salut Eric.
Bonjour à tous. Effectivement, c'est une affiche 100% tchèque entre Linda Noskova, 12e mondiale, et Karolina Murova, 9e mondiale. De miraculés, j'ai envie de dire, puisque c'est une grande première à Wimbledon. Ces deux jeunes filles ont sauvé des balles de match durant leur tournoi. Noskova, c'était en demi-finale contre Coco Gauff, on s'en souvient. Murova, c'était contre Coco Gauff. Et Noskova, c'était au troisième tour contre Shirchea. Donc voilà. Comme souvent chez les filles, l'émotivité va avoir un rôle prépondérant parce que la gagnante va ouvrir son palmarès en chelem. En tout cas, il fait très très chaud ici à Londres, enfin dans la banlieue de Londres. Et donc la partie vient de débuter à l'instant. C'est Linda Noskova qui est au service.
Ouais, l'Europe de l'Est qui est vraiment en pointe à Wimbledon chez les filles depuis des années quand même. Hein. Siatek, Krejcikova, Vondrousova, Rybakina. C'est dingue quand même cette domination qu'elles ont sur le reste du plateau féminin.
Si tu prends que les Tchèques, effectivement, tu peux remonter à Petra Kvitova, la gauchère. Mais après, tu l'as dit, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova, ils ont une école tchèque absolument extraordinaire. Moi, je conseillerais aux gens de la Fédération française d'aller faire un tour à Prostejov ou à Prague pour voir comment ça travaille, la détection, tu vois, le travail fourni, parce que il faut le copier, ce modèle. Tu sais que lundi, ouais, Christophe, il y aura peut-être que deux Français dans le top 100. Tu te rends compte du gouffre qui nous sépare du haut niveau?
C'est dingue. C'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue quand, quand tu vois le, l'argent en plus de la Fédération française de tennis, le nombre de joueuses et de joueurs qui évoluent et qui n'arrivent pas finalement à atteindre ce niveau. Bravo la Tchéquie en tous les cas pour avoir réussi à mettre deux jeunes femmes en finale de Wimbledon. On va vivre cette finale avec toi. À tout à l'heure, Eric. 17h10, toujours de l'avance pour Slok. Ça commence à se réduire, mais il a encore une petite minute d'avance, hein, à 9 km de l'arrivée.
Ça va être serré, ça va être tendu. Il avait 1 minute 05 en passant sous la banderole des 10 km. Il va arriver maintenant aux 9 km avec 1 minute d'avance, Liam Slok. Donc vous le voyez, on le sait, hein, le théorème il est clair. 1 minute à 10 km, c'est souvent juste, mais ça peut le faire. Pourquoi pas? Liam Slok, le Belge, est en tête dans cette étape du Tour de France qui amène le peloton ici à Bergerac.
Et il appuie très fort sur les pédales, Liam Slok, pour essayer de garder, ne serait-ce qu'un petit mètre d'avance sur les sprinteurs dans quelques minutes à l'arrivée à Bergerac. Romain Asselin nous rejoint à nouveau. Salut Romain, rebonjour. Pour une information concernant la canicule et l'étape de demain, puisque nous allons entrer en vigilance rouge pour cette étape disputée entièrement en Corrèze. Et vigilance rouge, cela signifie que l'étape pourrait connaître quelques soucis. Hein.
Oui, effectivement, on surveille depuis tout à l'heure, depuis 16h, à l'annonce de cette extension de la vigilance rouge, les canaux de communication et des organisateurs du Tour et de la préfecture de la Corrèze. Pour l'instant, aucune communication à ce sujet, mais effectivement, vigilance rouge. Souvenez-vous de ce courrier adressé par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à tous les préfets concernés par le parcours du Tour de France avant le grand départ à Barcelone, qui stipulait notamment, je vais le citer, qu'à titre exceptionnel et en concertation avec l'organisateur, vous pourrez décider de l'annulation d'une étape lorsque les conditions sanitaires ou opérationnelles ne mettent plus d'assurer simultanément la sécurité des spectateurs, des personnels mobilisés et la continuité de la réponse aux urgences de la population. C'est un peu pompeux, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une annulation d'office. On n'est pas forcément dans ce cas de figure. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Simplement, par exemple, des messages de prévention à destination du grand public qu'on entend depuis quelques jours, puisque quasiment tous les départements qui ont été traversés ont été concernés par une vigilance météo. Alors, c'était de couleur orange jusqu'ici au maximum. Ça peut être la fermeture de certains espaces publics ou encore l'augmentation des moyens sanitaire et de secours sur le parcours. On va surveiller évidemment ce qui se dit ce soir parce que ça peut avoir une incidence sur la 9e étape de demain.
Ce serait terrible parce que l'étape de demain est une magnifique étape, un magnifique tracé. Donc on espère que les organisateurs vont pouvoir quand même faire se dérouler cette course. Merci Romain pour ces informations. 7 km de l'arrivée, l'écart qui continue de se restreindre pour l'homme de tête, Liam Slok, Pierre-Yves.
Assez tendu. 7 km désormais, 44 secondes. Alors là, c'est pas à son avantage. Parce que ça grimpe pour le coureur belge. Et ce sont des grandes routes. Ça va pas durer trop longtemps. Mais là, c'est un petit peu plus difficile. 45 secondes. Néanmoins, Jérôme Pinot, il est toujours dans le timing pour pourquoi pas s'imposer. Puis on a l'impression que le peloton, il a un peu hésité. Et on voit surtout des coureurs de l'équipe Lotto qui, par moment, viennent casser un petit peu les relais.
Ouais, tout à fait. Il y a deux coureurs de l'équipe Lotto là qui sont en tête de peloton qui viennent casser. Et puis surtout cette valse des équipes qui viennent pour se replacer et non pas pour chasser l'homme de tête. On y croit à ce sprint chez certaines équipes, mais bon, on prend pas trop la barre non plus. On laisse faire les Alpecin. Logique, c'est eux qui ont le favori de cette étape avec Jasper Philipsen qui doit s'imposer parce que sinon la pression va monter énormément d'un cran par rapport à ses managers. Mais ouais, il est pas sur la partie de la route et du parcours la plus simple pour un homme seul. Hein. C'est très large, il y a beaucoup d'équipes qui roulent, c'est faux plat montant. Quand on a passé toute la journée à l'avant, c'est ce genre de route dans un peloton lancé à vive allure avec des hommes frais, c'est très difficile de résister pour un homme seul.
Mais le parcours va devenir un peu plus intéressant pour lui à partir des 4 derniers kilomètres, Jérôme.
Oui, dans 2 kilomètres, ça va être un petit peu plus sinueux, il sera un petit peu moins à vue. S'il a encore un petit peu de lucidité, qu'il arrive à virer très très vite, lui, il pourra choisir ses trajectoires. Mais on sent quand même que dans le peloton, il y a le feu dans la boutique. Hein. Décathlon, SMA, CGM ont même mis Richie Tello, le grimpeur, pour prendre quelques relais. C'est pareil dans toutes les équipes. Il leur donne du fil à retordre et il va pas falloir se regarder pour aller le chercher. Voilà, ça commence. Hein. D'ailleurs, déjà quelques ronds-points moins. Après, ça va se rétrécir, des petites enfilades, des virages à 90 degrés. Ça sera plutôt à l'avantage de l'homme de tête.
C'est simple. On était à 10,05 à 10 km. Il arrive dans quelques instants à 5 km et il a encore 28 secondes. Donc, j'ai peur que dans le dernier kilomètre, il se fasse rattraper, Liam.
Oui, mais une crevaison d'un sprinter, une chute, quelque chose.
Bien sûr, c'est encore faisable. Pour lui, c'est encore faisable. Faut pas qu'il lève la tête.
On rappelle que le final est très scabreux. Tu le disais tout à l'heure, Jérôme, avec des virages à angle droit. Ce sera le cas juste avant la flamme rouge et un petit peu après également, avant la dernière ligne droite pour arriver sur la ligne d'arrivée.
Ouais, même déjà un peu avant, tu parlais des 4 km. À 3 km 500, virage à 90 degrés sur la droite. Un rond-point à prendre à droite. À 2 km 500, le rétrécissement qu'on a vu, virage à droite. À 1 200 km, encore un virage à droite à 90 degrés. Et à 500 mètres de la ligne, un dernier virage à 90 degrés aussi à droite. Ça, pour l'homme de tête, c'est très très bon.
Attention, parce que là, il y a le virage. Ouais, Jérôme. Après ce virage, on a vu beaucoup de coureurs derrière se mettre en file indienne. Il y a des cassures dans le peloton et ça va être très très dur. Même, il va falloir être vigilant du côté des coureurs. On imagine que les leaders pour le classement général se sont replacés.
On est dans la zone
sprint.
Ça va
être un final ultra rapide. On va arriver, vous voyez, dans la zone sprint, évidemment. On y est maintenant. Mais il y a un coureur, il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui traînent à l'arrière, on le rappelle, dans cette zone sprint. Seul, en cas de chute ou en cas de problème mécanique, on est reclassé dans le temps du premier. Sinon, si on est distancé là, on n'est pas remis dans le temps du premier.
26, 27 secondes d'avance à 4 km 200 de l'arrivée pour Liam Slock, qui fait de la résistance et qui donne tout ce qu'il a. Il lui en reste encore un peu dans les sacoches, plus grand chose, mais en tous les cas, le parfum de la victoire lui donne une force incroyable, Pierre-Yves.
Là, il est dans le timing, hein. Il est toujours 25 secondes devant le peloton et il y a moins de 4 km et là, ça va devenir plus intéressant pour lui.
Et a priori, Maria, je pense que tu as voté pour la combativité, pour ce garçon incroyable, ce jeune Belge.
Bah oui, évidemment, il le mérite, ce prix de la combativité. Évidemment que j'ai voté pour lui et les votes sont unanimes, évidemment, pour ce Belge Slock, évidemment, qui mérite son prix de la combativité aujourd'hui.
Voilà, Liam Slock, 25 ans, coureur flamand de la formation Lotto Intermarché.
Oh, il continue
d'appuyer, il est en danseuse, la relance incroyable.
Ouais, la relance après le virage, quand tu as fait toute la journée devant, il a encore un peu de force. Hein. Ça, bien sûr, l'écart diminue un petit peu, mais il est encore là, 18 secondes à 3 km 300 de l'arrivée, ça risque d'être juste, ça accélère encore un petit peu dans le peloton, mais attention, au moindre incident, ça pourrait suffire pour l'homme de tête.
Jérôme Pinault, tu y crois ? Tu crois qu'il peut le faire ?
C'est possible, ça va être en tout cas très serré, je le vois soit aller au bout, soit être pris dans les 800-900 derniers matchs, hein. ça va être très tendu, mais en tout cas il a encore beaucoup d'énergie, il se bat bien, derrière c'est quand même bien lancé, hein. C'est encore bien étiré, il y a encore de la cohésion dans les équipes, on le sait, à certains moments on va commencer à devoir se placer et puis à chasser, mais là on est encore dans la chasse, on est bien concentré pour aller chercher ce coureur.
Et bientôt ils vont l'avoir en ligne de mire, hein. On est à 3 km de l'arrivée et il n'y a plus que 11-12 secondes d'avance pour Liam Slock. Ça va être terrible. S'il se fait rattraper comme ça dans les 200-300 derniers mètres, c'est la frustration totale, hein.
Oui, mais si ça passe, ça en revanche, avant, on dira, il faut tenter, sa chance.
Ça donnera peut-être des idées à d'autres d'y aller, parce qu'un autre costaud comme lui, l'affaire aurait déjà été pliée. Hein.
Ce sont les Astana, hein, qui font vraiment le boulot pour Max Kanter, suivi des Cofidis notamment, et puis des Alpecin, bien sûr, pour Jasper Philipsen, présent, Tim Merlier également. Toujours 10 secondes, 2 km 400. Et là, attention, parce que ça va devenir compliqué maintenant, avec gros virage à droite.
Dans le peloton, et avec un gros virage à droite, mais le plus dangereux des virages. Ce sera juste avant la flamme rouge à 1 km 200 de l'arrivée. Donc dans 1 km à peine. Et là, c'est vraiment scabreux, avec un rétrécissement, un virage à droite. Là, c'est très dangereux. Attention, hein, surveillez. Hein.
Tout à fait. Le virage à droite, c'est pas très grave. C'est qu'on passe de cette route très large et la route va diminuer de moitié, hein, dans ce virage. C'est pour ça que ça frotte autant là à l'approche du dernier
kilomètre. Tout le monde est prévenu. Les coureurs ont repéré. Mais effectivement, là, il est en ligne de mire à la banderole des deux derniers kilomètres. Liam Slug qui
continue. C'est dur parce que ça monte.
Ça monte. Et l'écart qui continue de
raconte-nous, Jérôme Coppel, raconte-nous là, quand on est comme ça, ça doit être terrible pour lui, les cuisses qui brûlent, ça doit être terrible.
Oui, bien sûr, là il a de la toxine jusqu'aux oreilles, hein, il pédale avec ce qui lui reste, mais bien sûr c'est facile à dire, mais faut pas qu'il se retourne, faut qu'il donne tout et derrière derrière, en tout cas, il est en train d'user un sacré paquet de coéquipiers pour les sprinteurs. On aura un sprint assez décousu, hein, je pense, notamment avec les virages et les rétrécissements dont on a parlé. Lui, il ne doit pas se retourner, on ne sait jamais, il faudrait qu'il arrive à passer ce virage. Là, c'est fini malheureusement.
Ouais, il ne plus rien dans les chaussettes. Oui, c'est ça. Plus rien dans les chaussettes.
Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans le moteur de Liam Slock.
Mais il a fait peur au peloton. Il a fait peur aux équipes.
Attention, parce que le peloton peut également se faire peur dans quelques instants maintenant avec ce virage à droite. On va surveiller ça avec beaucoup d'inquiétude. Le virage est dans quelques instants, Pierre-Yves.
Oui, avec dans 100 mètres maintenant la flamme rouge et on a aperçu Olaf Coy qui était bien placé. Attention à ce virage avant la flamme rouge.
Le dernier, l'avant-dernier virage de cette huitième étape du Tour de France s'est passé sans encombre pour les coureurs du peloton et pour les équipes de sprinteurs qui vont se mettre en place. La flamme rouge du dernier kilomètre.
RMC, la flamme rouge.
C'est parti, donc Liam Slope n'aura pas réussi sa mission. Il vient d'être mangé par le peloton et les coureurs notamment de l'équipe Net Company Ineos qui sont bien placés avec Dorian Godon qu'on aperçoit sur la gauche. Attention, il a failli accrocher Binyam Girmay. Un dernier virage avec Mathieu Van Der Poel, très bien placé dans sa roue. Là, Jasper Philipsen, ça sert pour les coureurs d'Astana sur la gauche avec ce dernier virage. Voilà, j'ai l'impression que Mathieu va faire un gros numéro. Mathieu Van Der Poel avec Jasper Philipsen dans sa roue. Attention, Olaf Coy quand même qui est encore à l'abri, ça va être dur pour Max Kanter. Il va peut-être réussir à s'accrocher, mais Mathieu Van Der Poel est très fort. Il y a Olaf Coy sur la droite de la route. Olaf Coy, Youyaf ou Jasper Philipsen et Tim Merlier également. Tim Merlier à la lutte avec Binyam Girmay. Ça sera le dernier mot très certainement pour Tim Merlier devant Binyam Girmay. Qu'est-ce qu'il est fort ce Tim Merlier. C'est lui le meilleur sprinter actuellement du peloton du Tour de France.
Impressionnant Tim Merlier qui a déposé tout le monde et qui s'impose avec un vélo d'avance quasiment, Jérôme.
Un vélo d'avance, c'est impressionnant la manière dont il gère ses sprints. On a Olaf Coy et Philipsen qui se bagarrent de leur côté, on le voit pas. Lui passe de l'autre côté tout seul. Je répète ce que j'ai dit hier, en vitesse pure, on le voit encore aujourd'hui. Il n'y a pas de match. On l'a pas vu dans les 800 derniers mètres. D'un coup, il débouche de
la caméra. Pas de poisson pilote en plus, Jérôme.
Non. Bah, il y a Jasper Stuyven qui a encore fait un gros boulot dans le dernier virage notamment. Mais si on revoit les images là.
Il est 11e. À 500 mètres de l'arrivée, dans le virage, il est très loin. C'est fou.
Il y a une cassure.
Incroyable.
Et les autres, Olaf Coy,
il remonte à une vitesse.
Max Kanter, Philipsen se frottent à droite de la route et lui, il est déjà passé. Tout seul et il est passé.
Jérôme Pinot, c'est incroyable. Le numéro de Tim Merlier.
Ouais, j'ai fait un focus sur Tim Merlier dans le dernier kilomètre pour voir comment il s'est débrouillé. Je peux vous dire que là, on se posait la question hier, est-ce que c'est le plus rapide? Bon, ben là, on va plus la poser, hein, parce qu'il était très, très, très loin. Il y a même eu une cassure aux 400 mètres. Il bouche le trou, il arrive quasiment avec un tiers de plus de vitesse que le groupe qu'il précède. Il rentre comme une balle, un sprint de l'arrière. Encore une fois, il se rassoit et se permet de se remettre debout aux 200 mètres. Il est le plus rapide, il est intouchable, Tim Merlier, même sans lead out, même sans train autour de lui. Il est incroyablement rapide et il vient régler encore tout le monde avec, encore une fois, un vélo d'avance. Il a largement la marge pour même partir de plus loin encore, c'est incroyable. Il est ultra, ultra rapide.
Mais on a l'impression qu'il était pas qu'il avait quasiment un moteur sur son vélo quand on l'a vu
non dernier virage, il était tellement loin.
Il a une accélération alors que les mecs sont déjà à bloc, lui il les remonte comme si c'était des cadets première année quoi.
Bah c'est ça, parce que là le sprint il est à plus de 65 km/h quand Philipsen, Olaf Coy lance et lui il arrive de l'arrière encore avec un peu plus de vitesse. Donc on a beaucoup parlé des braquets en montagne, ça joue aussi sur le sprint. Il est arrivé de l'arrière, comme a dit Gégé, avec plus de vitesse, mais il faut pouvoir revenir de l'arrière et avoir plus de vitesse que les autres. Il y avait cette cassure, franchement, là, de nouveau en vitesse pure, il n'y a pas de match. On le voit quasiment pas dans le sprint, on voit tous les autres sprinteurs se battre pour se mettre dans la route, Philipsen, notamment Coy et Max Kanter. Lui, il ne perd pas de temps, il ne s'embête pas à jouer des coudes et des épaules, il se met à gauche de la route, il enquille la cinquième et terminé.
On va donc rappeler le classement de cette huitième étape, Pierre-Yves, la victoire d'un Belge qu'on connaissait déjà depuis hier et depuis quelques années maintenant.
498e victoire pour les Belges qui se rapprochent de la 500e. Il y en a eu 34 notamment pour Eddy Merckx aujourd'hui. C'est Tim Merlier qui s'impose devant Binyam Girmay. 3e place pour Olaf Coy. 4e Jasper Philipsen. Pourtant, parfaitement emmené par Mathieu Van Der Poel, mais qui n'a pas réussi à battre le Belge. Pavel Pitner est 5e, Pleumers pour l'équipe Tudor est 6e, Ackermann 7e, 8e. Le premier français, c'est Clément Russo pour la Groupama FDJ United. Max Canter est 9e, il avait eu un train formidable pourtant, mais il n'a pas réussi à terminer. Et Milan Frétin de l'équipe Cofidis, le Belge également, termine 10e. Warwick Schult aujourd'hui est 11e.
Voilà, Tim Merlier qui fait également une très belle opération au classement du maillot vert, puisqu'il revient à seulement 15 points de Mats Pedersen. Ah ouais. 228 points pour Pedersen, 213 pour Merlier. On disait que le classement était peut-être déjà joué. Là, c'est relancé complètement, hein, Jérôme.
Bah, deux victoires d'étape, en plus avec un faible coefficient. Les étapes sont classées par coefficient. C'est 70 points la victoire, ça va vite. Hein. Plus, et pour la première fois depuis le début du tour, il a été faire le sprint intermédiaire, hein, Tim Merlier.
Ouais, donc quand il nous disait que le maillot vert ne l'intéressait pas, je pense que là, il a changé d'avis. Hein.
Il a perdu qu'un point sur Mats Pedersen. Il a fini 7e.
On a bien senti qu'il ne l'a pas fait à fond le sprint intermédiaire, parce qu'il est resté assis tout le long, mais il était quand même là pour prendre quelques petits points. Et ça, bah voilà, l'appétit vient en mangeant aussi.
Et puis Mats Pedersen s'est un peu raté à l'arrivée, puisqu'il fait que 12e, Jérôme.
Ouais, c'est surtout qu'il a dû sentir hier dans le sprint qu'il avait énormément de force, énormément de marge par rapport à ses adversaires. Et il s'est certainement dit hier, mais et si on arrivait à gagner les 5 sprints de ce tour, les 5 étapes prévues pour les sprinteurs, bah ça lui mettrait un sacré coup d'avance. Alors certes, après, il y a beaucoup de points à prendre en cours de route, mais il y a quelques points aussi à prendre en début d'étape. Et là, ça changerait la donne, parce que là, Tim Merlier, il est tellement au-dessus dans les sprints. C'est un peu le Pogacar du sprint, quoi. Il se balade dans les sprints, il peut être très très loin. Quoi qu'il arrive, il arrive à débouler et à les mettre tous à un vélo. Donc pourquoi pas se remettre dans le jeu pour le maillot vert pour Tim Merlier.
Très bien, 17h25, on revient dans un instant pour débriefer cette étape jusqu'à 18h, comme tous les jours jusqu'au 26 juillet. On va également faire un petit tour à Wimbledon pour savoir où en est cette finale dame entre Mukova et Noskova, mon cher Eric.
Oui, bah pour l'instant, c'est la plus jeune des deux, Linda Noskova, 21 ans, qui mène la danse, et assez largement, 4 jeux à 1. Je vais vous le dire franchement, ça m'étonne pas, parce que j'ai vu, tu sais, les fameuses photos avant l'échauffement, elle me semblait extrêmement crispée, Carolina Morova, donc elle a du mal à rentrer dans sa partie en face. Noskova joue sans complexe, c'est une fille qui sert extrêmement bien, qui est très puissante, donc qui a gagné un titre à Berlin assez important. Donc pour l'instant, elle mène 4 jeux à 1. Et on parlait des Tchèques, eh bien elles sont dans la Royal Box. Martina Navratilova, Petra Kvitova ont été invitées par le All England Club, évidemment.
Même si Martina Navratilova a pris la nationalité américaine depuis longtemps maintenant, mais elle reste attachée évidemment à ses racines. Ah oui, elle est sûre. Eh oui, Martina. Allez, à tout à l'heure, Eric, pour la suite de cette finale. 17h27, on revient dans un instant sur, non pas sur la route du tour, mais à l'arrivée de cette 8e étape à Bergerac, où c'est donc le Belge Tim Merlier qui s'impose ici.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h30, l'arrivée de la 8e étape et la victoire d'un serial winner. Il se nomme Tim Merlier. Il est belge de la formation Soudal Quickstep. Il s'était imposé hier à Bordeaux. Eh bien, il a récidivé aujourd'hui de main de maître. Pierre-Yves, on rappelle le classement de cette étape. Donc, remporté par Tim Merlier.
Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est pas si souvent, hein. On regardera dans les archives, mais être capable de gagner 2 jours de suite sur le Tour de France, déjà gagner une fois, c'est pas facile. Gagner 2 jours de suite, ça l'est encore moins. Tim Merlier qui s'impose devant Binyam Girmay, 3e, Olaf Koy, Jasper Philipsen et 4e, Pavel Bittner pour l'équipe Picnic Pastenel et 5e devant Pleumers, Ackermann, le Français Clément Russo, Max Canter et Milan Frétin. C'est pas facile de s'imposer 2 jours de suite, sauf quand on s'appelle évidemment Tadej Pogacar. Ouais, oui. Mais là, pour les sprinteurs, il y a de moins en moins quand même de sprints, on le disait. Là, il y avait 2 journées possibles de suite. Eh bien, c'est le Belge qui s'est imposé à 2 reprises.
Philipsen avait dû le faire, je pense.
Oui.
Non, pas sûr. En 2024, il en avait remporté quelques-unes.
Peut-être pas consécutivement.
Mais pas consécutivement. 3 étapes pour. Ouais, je sais pas. On va
chercher. Cavendish, certainement, lui a dû
le faire. Ah oui, Cavendish le faisait parce qu'il y avait. À cette époque-là, il y avait 6-7 sprints et souvent des premières semaines où il y avait plusieurs possibilités aussi.
Ouais. Voilà, Tim Merlier qui a vraiment fait une impression incroyable, Jérôme Coppel, on le rappelle, il était très loin du compte à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il est remonté tout seul comme un grand. Il a déposé tous ses adversaires. Magnifique travail réalisé par Mathieu Van Der Poel. Mais Philipsen, c'est la confirmation, n'a pas les jambes pour aller chercher une victoire pour l'instant.
Ben, c'est ça. Alors Tim Merlier, et comme il était un petit peu loin, il a déclenché son sprint de très loin à 350 mètres, 360 mètres à peu près. Donc c'est un sprint très très long hein, pour un sprinter justement. Binyam Girmay est à peu près au même niveau, vient prendre la deuxième place. Donc c'est vraiment très très bon pour Binyam Girmay. Et c'est vrai que pour Philipsen, bah, c'est un petit peu décevant.
On va écouter Tim Merlier, traduit par Jérôme Coppel évidemment.
Non, je vois le boss.
Donc, didn't feel like this. I need to fight for my position all the time.
Pour ma position toute la journée.
Lost me definitely. Just before the corner.
J'ai perdu quelques mètres juste avant le virage.
Yeah. Well, a bit boxed in.
J'étais un peu dans la boîte.
And I thought it was over. So I gave it a try to come back on the guys.
J'ai essayé de revenir sur les gars, sur les premiers du peloton. J'avais beaucoup de vitesse.
So it was 250 then. I say I gave it a try until the finish, we see.
Et j'ai bien sûr essayé jusqu'au final pour voir ce qui allait se passer.
50 meters, I can't push anymore.
Et dans les derniers mètres, je ne pouvais plus pousser.
I found the energy to carry on, to take off from so early and to hang on and to outsprint everyone.
Ah, see the finish. I can't give more than.
À la fin, je ne pouvais pas donner plus que ce que j'ai donné.
But in this heat was. A really difficult effort.
C'était un effort vraiment très difficile.
Yesterday opened the win today.
Est-ce que gagner hier, ça vous a aidé aujourd'hui?
If you win one, you can win a second, and I'm happy. On three stages, I can two of it.
So whatever happens,
tu gagnes une fois, c'est plus facile de gagner une deuxième fois. T'as plus de confiance.
Definitely, my Tour de France is ready.
A sweet revenge after the defeat of Belgium in football.
Correct.
Voilà, il fait allusion à l'élimination, bien sûr, de la Belgique en Coupe du Monde de foot.
Voilà, il n'a pas voulu en dire plus. Correct, oui. Mais c'est...
Je pense qu'ils s'en fichent complètement foot à ce moment-là. Non, à ce moment-là. À ce moment-là, quand voilà. Tu viens de gagner ta deuxième étape.
Remco, si tu lui parles de ça aujourd'hui, lui, d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe des jeunes.
Il s'est bien fait chambrer par Kevin Vauclin sur le vélo en Kevin Vauclin. Ils sont plus là les Belges. Il avait Remco dans sa roue. Ils sont plus là. C'était une image sympa.
Ça plaisait pas trop à Remco d'ailleurs, qui rigolait pas beaucoup. Il faut remonter à plus de 3 ans pour trouver, hormis Tadej Pogacar, un garçon qui a gagné 2 jours de suite. C'est Jasper Philipsen qui avait gagné à Nogaro et la veille à Bayonne. C'était les 3 et 4 juillet 2023.
Il en avait gagné 2 autres à Bordeaux et puis à Moulins. Il était seul au monde cette année-là. 4 victoires d'étape sur le tour. Là, c'est. On pense... mais Merlier peut peut-être le faire. Hein.
Disaster. Hein,
mais on... année, hein. Oui, c'est vrai. On pensait que.
Jasper the Master, devenu Jasper the Master grâce à ses 4 victoires.
C'est ça. On pensait qu'il allait dominer le sprint mondial, comme avait pu le faire justement Marc Cavendish, Eric Zabel, etc. Et comme on le disait hier, bah, en fait, la domination des sprinteurs, elle change d'année en année. On a eu Girmay aussi, Binyam Girmay, qui avait dominé aussi un Tour de France. Et cette année, on a Tim Merlier. Tim Merlier, qui, on rappelle, a perdu son poisson pilote, mais apparemment, il en a pas besoin. Moi, je l'avais pas mis comme favori aujourd'hui parce que après avoir vu le final, justement, je pensais que des fois, sans poisson pilote, il a peut-être un peu de mal. Et il le dit lui-même. En gros, c'est soit il est bien placé, il fait son sprint et il va pas aller épaule contre épaule. Vraiment, voilà, c'est un sprinteur très très propre. Et je me suis dit, tiens, il pourrait peut-être se faire piéger au placement. Il s'est fait un petit peu piéger. Il a dit dans son interview qu'il avait perdu quelques mètres, mais il est tellement puissant, tellement rapide qu'il a pu remonter tout le monde.
On a des images. Ouais,
puis la hiérarchie, elle s'installe.
Merlier, Jérôme, je t'interromps juste un instant parce qu'on a des images de Tim Merlier qui est allongé dans un escalier avec une bouteille d'eau et qui a encore le cardio très très élevé, qui a du mal à récupérer. Hein,
c'est pas combien de temps on met pour retrouver son rythme cardiaque au repos? Après une étape du tour comme ça.
Alors, bah, le rythme cardiaque au repos, surtout avec la chaleur, ça va mettre du temps à descendre. Mais ils étaient quasiment déjà aux fréquences cardiaques max avant le sprint. Allez, je sais pas, 5, 10 ou 5 battements max. Ils étaient déjà que ça roule tellement vite à l'approche du sprint. Mais là, c'est vraiment un effort lactique. Lui, il a fait un sprint très long, hein, quasiment 400 mètres de sprint. C'est 20 secondes à plus, je sais pas, le poids qu'il fait, Tim Merlier, mais à plus de 1600 watts certainement. Et là, t'as comme il a dit, je pouvais plus rien faire. Je pense qu'il pouvait à peine tenir sur son vélo en passant la ligne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est couché sur les marches.
Et tous les photographes qui l'entourent pour prendre cette photo assez originale, Tim Merlier dans un gymnase sur les escaliers, donc qui essaye de récupérer. Jérôme, tu voulais intervenir.
Non, je voulais dire surtout que la domination d'un sprinter est souvent due à sa confiance. Et c'est peut-être pour ça aussi que Philipsen a du mal à enchaîner. Pour l'instant, il n'est pas en confiance. Et quand on n'est pas en confiance, on fait les mauvais choix. Alors certes, il faut un lead-out, il faut un lanceur. Mais Philipsen, aujourd'hui, il a quand même ce qu'il faut. Parce que Mathieu Van Der Poel, aujourd'hui, il a fait le taf. Mais on sent que Philipsen... Alors déjà, je pense qu'il lui manque de la puissance, il lui manque de la force. Il n'est pas si bien. Mais il a aussi un manque de confiance. On le voit tergiverser. Une fois que Mathieu l'a laissé, il cherche un peu à prendre sa position. Il se fait déborder et ça, Tim Merlier l'a pas, parce que lui il a pas de lanceur puisqu'il l'a perdu. Stuyven a fait le taf, et dans ce sprint un peu décousu avec ce virage, il a une arme fatale, la confiance. Et puis comme il est très fort, il peut se permettre de même faire un sprint décollé à une vitesse de 70 km/h. Donc la confiance joue énormément chez les sprinteurs, et c'est le fait de gagner et encore gagner. J'ai travaillé avec Mark Cavendish, il a été obsédé par la victoire, la dernière ligne droite et passer la ligne en premier, et Tim Merlier est un parfait exemple.
Ouais. Très bien, 17h38, on part à Wimbledon, Eric, avec plusieurs balles de 7 pour Noskova face à sa compatriote Mukova.
Ouais, elle est vraiment dans les cordes de Linda Mourova, et c'est vraiment dommage parce que c'est une fille qui a un tennis sublime. On l'a vu en demi-finale face à Coco Gauff, mais là elle subit quand même la puissance de sa jeune compatriote. 5 jeux à 2 pour Linda Noskova, et troisième balle de 7 déjà à venir. Elle est effacée d'un nez, ça va lui faire du bien à Karolina Mourova, qui avait fait finale à Roland Garros, battue par Iga Świątek il y a quelques années, qui a 29 ans. Donc peut-être qu'aussi ça joue dans sa tête, elle se dit les occasions elles ne repasseront peut-être pas comme ça, alors que Noskova, je vous le rappelle, n'a que 21 ans. Donc 5-2. Noskova, Mourova va tenter de sauver sa mise en jeu.
Ok, on revient vers toi dans quelques instants. 17h39 de retour ici à Bergerac. On va jeter un coup d'œil aux différents classements. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé pour le classement général, pour le classement du meilleur jeune ou du classement du meilleur grimpeur. Mais on le disait tout à l'heure, Pierre-Yves, il y a un petit changement quand même sur le maillot vert avec un suspense relancé.
Oui, exactement. Et on peut commencer d'ailleurs par ce maillot vert avec Mats Pedersen, donc, qui possède 228 points, mais seulement 15 points d'avance sur Tim Merlier, le vainqueur du jour, à 213 points. Et derrière, c'est serré aussi, puisque Binyam Girmay est à 203, donc ça s'est vraiment resserré. Il n'y a plus que 25 points d'écart entre Mats Pedersen et le troisième Binyam Girmay. Jasper Philipsen est quatrième avec 175 points. Max Kanter derrière, 172 points. C'est vous dire s'il y a une densité avec tous ces sprinteurs qui font à la fois désormais le sprint final et aussi le sprint intermédiaire. Chez les grimpeurs, le maillot à poids, pas de changement aujourd'hui. Il y avait quelques petits points à aller chercher. C'est Liam Slock d'ailleurs qui a pris les deux points du jour, mais au classement général, il n'y a pas de changement. C'est toujours Tadej Pogacar qui a 28 points. Jonas Vingegaard a 19 points. Et d'ailleurs, si on se penche sur l'étape de demain, il y aura quand même quelques points intéressants à aller chercher après cette étape qui était gentille avec deux catégories en deux quatrièmes catégories. Demain, il y aura un quatrième catégorie, un troisième catégorie, deux troisièmes catégories même, et un deuxième catégorie. Donc un peu plus de points à aller chercher pour les baroudeurs. Pogacar, Vingegaard, Lenny Martinez est à 12 points du leader de ce classement. Du côté du maillot jeune, c'est toujours Isaac Del Toro devant Juan Ayuso à 7 secondes et Paul Sexas à 28 secondes. Et puis je vous rappelle évidemment le classement en général. Tadej Pogacar, leader avec 2 minutes 42 d'avance sur Jonas Vingegaard, 3 minutes 27 sur Isaac Del Toro, 3 minutes 30 sur Remco Evenepoel, 3 minutes 34 sur Juan Ayuso et 3 minutes 55 sur notre français Paul Sexas.
C'est dans la poche pour Noskova, la première manche en tout cas, Eric, dans cette finale de Wimbledon.
Oui, à sa cinquième occasion et sur une superbe balle de 7 et beaucoup d'inspiration, beaucoup de toucher de balle, un petit lob qui a totalement surpris Mourova. Donc va falloir qu'elle réagisse, Mourova, parce que ça peut aller très très vite. Le premier set a duré une trentaine de minutes. Donc 6-2 pour Linda Noskova.
Merci Eric, à tout à l'heure, 17h41. Jérôme Pinault, est-ce que ce suspense pour le maillot vert est relancé? Est-ce que tu fais désormais de Merlier le favori pour décrocher le maillot vert dans 15 jours, ou Pedersen reste comme pour toi le grandissime favori, lui qui porte le maillot vert?
Ouais, j'ai envie de te dire que Pedersen reste favori parce qu'il a la capacité, Pedersen, à passer des bosses mieux que Tim Merlier et que dans les étapes accidentées, il fera beaucoup de points. Maintenant, il va falloir être très costaud parce que j'ai l'impression que Tim Merlier est lancé pour en prendre quelques-unes encore. Maintenant, le seul moyen pour moi, pour Tim Merlier, de gagner le maillot vert, c'est de gagner les trois prochains sprints. Et ça, ça ferait 5 victoires dans ce tour. Il y aura bien des sprinteurs qui vont réussir à le piéger et à le battre une fois. Donc, toujours Mats Pedersen pour moi le favori de ce maillot vert. Mais c'est vrai qu'il va devoir se méfier maintenant du Belge. Hein.
Et Tim Merlier qui jusqu'à présent, même au début de tour, se disait pas vraiment intéressé par le maillot vert. Je trouve ça un peu dommage quand même, Jérôme, quand on est le meilleur sprinteur de la Terre, de ne pas s'intéresser au classement qui justement ravit normalement. C'est un très beau maillot, le maillot vert quand même.
Oui, c'est le plus beau des maillots.
Ah, pour toi c'est le plus beau, toi.
Ah, bah, pour les sprinteurs.
Ah oui.
Mais comme disait Jérôme, je pense que Mats Pedersen reste le favori. D'ailleurs, lui, il a dit au début, avant le tour, moi, mon objectif, c'est le maillot vert, Mats Pedersen. Et je pense que Tim Merlier, il est bien conscient de ses limites dès que la route s'élève un petit peu, et il pense pas pouvoir prendre beaucoup de points sur les sprints intermédiaires. Si on prend l'étape de demain, par exemple, le sprint est au bout de 45 km, mais avant, c'est pas plat du tout, hein. Ça monte, non. Ça descend, et lui, on se rappelle l'année dernière, il a fini le tour vraiment dans le dur, hein. Tim Merlier, dès que ça monte, il est vraiment vraiment dans le mal. Donc je pense que c'est pour ça que ce maillot-là, il le sent inaccessible. Et s'il y avait plus d'étapes de sprint, là ça serait un peu plus jouable pour lui, surtout avec le nouveau barème de points. Mais là il a plus, parce que GG, tu dis 3, moi j'en vois vraiment que 2 d'étapes pour Tim Merlier.
Nevers, hein. Chalon.
Mais c'est tout. Et c'est tout, parce qu'après l'arrivée à Belfort, t'as un col de première catégorie
Belfort,
juste
c'est
avant.
Pas possible.
Non, donc c'est tout. Bah, éventuellement les Champs-Élysées, mais je sais pas s'il va passer la butte Montmartre, Tim Merlier.
Ouais.
Ça va être
Ça dépendra de la course qu'il y a là.
Messieurs, on écoute le leader de la course, Tadej Pogacar.
Just like every day, a lot of water and keep cooling the body down.
Comme tous les jours, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai essayé de me rafraîchir un maximum.
Does that have an impact on your body, on your legs?
Est-ce que cette chaleur a un impact sur votre corps?
Anybody that is just outside can tell that. The body gets tired.
Demandez à n'importe qui est dehors, yeah, ça a un impact sur tout le monde.
So definitely we need to, even if it's easier day, we still need to be careful and
même si c'est une étape facile, on doit faire attention, on doit absolument boire beaucoup d'eau, se rafraîchir le plus possible. Demain sera une étape très difficile, est-ce que vous voulez contrôler?
We will see what happens tomorrow for sure.
On verra ce qui arrivera demain.
It will be a tough day for us.
Ça sera une étape très difficile pour nous, mais on est prêt.
Thank you.
Bon, ça va vite avec Tadej.
Ah oh bah oui, bon, enfin sur une étape.
J'ai moins de chance de
tromper
dans la traduction au moins.
Non, mais tu es impeccable. Je sais pas à qui on va donner le maillot rouge de la traduction, le maillot jaune de la traduction.
GG, parce qu'il peut faire l'italien en plus, donc
Même
un coup d'avance.
Il est quand même multi-carte, GG Pinot.
Multi-carte. Le problème, c'est que pour traduire en italien, il faut qu'il y ait un italien qui gagne sur ce tour, et c'est pas gagné d'avance.
C'est comme le foot, tu vois, on est tranquille sur le vélo.
À part un directeur sportif, ça gagne du côté de l'Italie, parce que Brama va nous ressortir les grosses larmes aujourd'hui puisqu'il vient de gagner de nouveau, mais chez les coureurs c'est compliqué, hein.
Ouais. Alors qu'on voit là des sapeurs-pompiers qui sont en train de rafraîchir les spectateurs sur le bord de la route. Ah, ça fait du bien, ça. Une espèce de brumisateur. Et tu vois le sourire des spectateurs qui. Oh là là, quel bonheur! Quel bonheur après cette chaleur. Ils ont eu le courage de rester là pendant des heures. Et bien là, ils se voient récompensés par les pompiers qui ont du boulot, évidemment. Et on le disait tout à l'heure avec Romain Asselin, demain, on monte encore d'un cran en termes de canicule, puisque le département de la Corrèze, où se déroulera l'essentiel et même la totalité de cette 9e étape, entre en vigilance rouge, et que cette vigilance rouge permet au préfet du département d'annuler ou de réduire une étape. Alors Romain nous disait tout à l'heure, pour l'instant rien n'a été décidé, mais évidemment il va falloir surveiller ça avec attention. Et Tadej Pogacar le disait tout à l'heure, c'est vrai que cette chaleur commence à user les organismes de tout le monde, même des grands champions.
Oui, et il le disait, hein, même sur les étapes faciles, il faut penser à bien boire, à se rafraîchir le plus possible, et ça rejoint le sujet de Léna sur la cryothérapie, la récupération, même sur une étape facile, ben, elle s'accélère si t'es bien hydraté. Voilà, si t'es arrivé à la fin d'une étape déshydraté, c'est compliqué de repartir le lendemain. Après, moi, je vais prendre cette fois le côté le côté optimiste de Luc Leblanc qui nous a dit ouais, demain il y a quand même beaucoup d'ombre en Corrèze. C'est vrai qu'à partir de la première difficulté, alors il y aura quand même 80 km d'ailleurs plutôt à découvert, après ils vont être dans une forêt, donc ils vont quand même trouver un petit peu d'ombre, mais bien sûr on va voir si une décision est prise par rapport, je sais pas, à l'horaire, à la distance de la course. On verra ça ce soir.
Il y a de l'ombre, GG, et puis faut pas oublier que demain après 66-67 km, on va passer les 100 derniers bornes à 1000 mètres, hein, quasiment 1000 mètres d'altitude. On va monter pas si haut que ça, 1200-1300, mais on va jamais redescendre vraiment, donc on va être plutôt aux alentours des 1000 mètres, des 900 mètres, et effectivement, même s'il fera pas 10 degrés de moins, ça risque d'avoir une incidence. On va être un peu plus haut, les températures seront un peu plus basses sur des routes ombragées. Il me semble que demain, c'est pas irraisonnable de lancer un peloton. Maintenant, il y aura évidemment d'autres directives et interrogations quant à la sécurité, notamment des spectateurs, et ou même en cas d'incendie, s'il y avait un problème avec un véhicule. Donc, pour les coureurs, ça me semble pas insurmontable. En revanche, les décisions qui vont être prises vont surtout dépendre, bah, peut-être du spectateur et du risque que peut engendrer un certain nombre de véhicules sur les routes en pleine chaleur.
Et nous, on est un peu inquiet pour le nez de Maria Azé, qui est de plus en plus rouge.
Ce nez.
Et qui demain.
C'est pas avec ce qu'elle boit le soir, elle boit pas, hein, Maria.
Ah, je suis très sérieuse cette année.
Attends, on va écouter d'abord Liam Slok, qui malheureusement pour lui a été frustré de la victoire par Tim Merlier. On l'écoute, le combatif du jour.
Because still in the end, on 10 from the end, I still had like 50 seconds or 1 minute. So normally it's possible from there to.
Ouais, à 10 km de l'arrivée, j'avais entre 50 secondes et une minute. Normalement, c'est possible.
So it's a pity. Yeah,
alone it was too hard.
C'est dommage.
How was it to be alone in the front of the stage of two?
Amazing, actually.
C'était incroyable d'être devant.
Side of the road and
il y avait tellement de gens au bord de la route. Between them.
I heard a lot my name, so
j'ai entendu really beaucoup nice. De fois mon nom.
So you, it's the main purpose of your team to be alone in front?
C'est l'objectif de l'équipe d'être tout seul à l'avant à chaque fois. Il faut référence à Baptiste Westhoffer.
40 km to go. If you do not try, you never know. So
voilà, 40 km de l'arrivée, j'ai essayé. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais.
Voilà, Liam Slok un peu frustré. It's a pity, a-t-il dit. Évidemment, c'est triste. C'est vrai qu'il a été quand même incroyable. Et on y a cru un moment quand même. Hein. On a cru qu'il allait réussir à.
Ah ouais?
A muselé le peloton, mais il c'est revenu
costaud,
très vite quand même dans le final.
Très
Ce qui lui a coûté cher, c'est qu'il y avait quand même des grandes lignes droites et légèrement montant comme ça. Et là, quand t'es tout seul, c'est compliqué face à un peloton.
Est-ce que Maria Azé y a cru? Elle a passé l'après-midi derrière avec Liam Slok. Est-ce que tu lui as dit un petit mot d'encouragement ou non?
Non, je ne l'ai pas encouragé.
Pas le flamand encore?
Non, pas encore. Mais il faut que je m'y mette parce qu'il y a quand même beaucoup de courses dans l'année où ce serait pas mal de savoir le parler. Non, j'ai
bon
cru.
Courage, j'ai passé 5 ans avec eux, je peux te dire que c'est pas facile. Hein.
Mais le flugudu est pas facile à apprendre.
On voyait qu'il était vraiment à fond, quoi. Il donnait tout ce qu'il pouvait. Il y avait son directeur sportif juste derrière dans la voiture qui l'encourageait, qui lui hurlait dessus. Et les gens, c'est vrai qu'il y avait quand même au début de l'étape pas beaucoup de monde, je trouvais, mais sur la fin de l'étape,
dans les villages,
c'était impressionnant. Il y avait vraiment plein de monde. Et on sentait qu'il prenait vraiment le soutien de la foule. Et voilà, on pouvait penser que ça allait le porter jusqu'au bout, mais c'est un peu la dure loi des sprints.
Mais à l'arrivée, oui, c'est la Soudal Quickstep qui s'impose et qui continue sur sa lancée, puisque dès hier, avec cette victoire de Tim Merlier, ils détiennent un record. Depuis 2013, ils se sont toujours imposés. C'est la seule équipe qui a
capable de faire ça. Oui, Jérôme le disait tout à l'heure.
Oui, avec Mark Cavendish, avait commencé à Marseille en 2013. Et depuis, ils se sont toujours imposés. Mais oui, bien sûr, tu étais là.
Et oui, tu fais partie de cette aventure et de cette incroyable réussite sur les routes du Tour de la formation Soudal Quickstep. Alors, ils sont un peu moins présents sur les grandes classiques, alors que c'était leur spécialité pendant des années, Jérôme Coppel. Mais sur le Tour de France, ils ne se ratent jamais. Hein.
Ils ne se ratent jamais. C'est vrai qu'ils ont eu une période un peu de transition. C'était les spécialistes des classiques flandriennes. Et avec Remco Evenepoel, ils ont essayé de changer un petit peu pour aller vers le classement général des grands tours. Ça a en partie marché. Il a quand même gagné un Tour d'Espagne chez eux. Hein. Remco Evenepoel fait podium comme sur le Tour de France. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, depuis un peu cette transition, ils sont moins présents sur les Flandriennes, même les Ardennaises d'ailleurs, sur les classiques d'une manière générale. Par contre, sur les grands tours, ils ne se ratent pas. On a eu Paul Magny au Giro, on a Tim Merlier ici sur le Tour de France. Et le but d'une équipe, quand même, au départ, de toute équipe, c'est de gagner au moins une étape. Certaines peuvent penser au classement général si elles ont les coureurs pour, mais si tu réussis ton tour, si tu as gagné une étape, cette équipe, on a déjà.
Il leur manque un flahut de grand niveau, d'un niveau d'un Tom Boonen ou tout ça pour pouvoir s'imposer sur les Flandres, sur Paris-Roubaix. Ça, ils l'ont pas encore trouvé.
Et le problème, c'est Christophe, c'est que aujourd'hui Quick-Step n'est plus la grosse équipe en termes de budget qu'elle était, puisqu'elle n'est plus parmi les gros budgets. Et puis aujourd'hui, tu embauches qui pour gagner les Flandriennes? Pogacar. Pour gagner Roubaix, Pogacar. Pour gagner les Bastogne-Liège, Pogacar. Pour gagner les grands tours, Pogacar. Donc ça, l'équipe n'en a pas les moyens. Donc elle n'a pas Van Der Poel, elle n'a pas Van Aert. À partir de là, ils ont fait un autre choix pour continuer à exister. Elle n'est plus ce qu'elle était par le passé, cette équipe Quick-Step, mais parmi nos équipes françaises notamment, et la trois quarts du peloton international, il y en a combien qui signeraient pour faire une saison moyenne ou rentrer dans le rang, comme être en train de rentrer dans le rang Soudal Quick-Step? Ils gagnent deux à trois étapes par grand tour. C'est déjà pas mal, je trouve.
Ouais, c'est effectivement un magnifique résultat. Voilà donc pour cette étape remportée donc par Tim Merlier, le coureur belge qui récidive après son succès hier à Bordeaux. Il s'impose aujourd'hui à Bergerac. Demain, ce sera plus compliqué pour lui parce que l'étape est lui qui ne passe pas un pont de chemin de fer. Demain, ça va être sans doute plus compliqué. C'est une étape très intéressante qui nous attend, à condition évidemment qu'elle puisse se tenir normalement, puisqu'on vous le rappelle, vigilance rouge canicule demain sur le département de la Corrèze. Merci messieurs, dames. On se retrouve tout à l'heure à 19h, Pierre-Yves, on va parler de quoi dans l'after? T'as déjà réfléchi?
Écoute, peut-être qu'on va parler de Tim Merlier quand même, un petit peu, évidemment, qui a gagné pour.
Je croyais qu'on avait tout dit hier.
Bah oui, mais on va redire, parce qu'on a pas gagné deux jours de suite.
On reprend la bande d'hier, l'enregistrement d'hier, on repasse.
Hop là, et on va au resto direct.
Pas du tout, parce que c'était complètement différent. Il a fait un numéro incroyable et c'est aussi le travail d'équipe qu'on mettra en avant. Et puis on parlera de, pourquoi pas, de celui qui a été le combatif du jour, Liam Slock, qui avait gagné la dernière fois en glissant, mais cette fois qui n'a pas réussi, même en glissant.
Même en glissant, il n'a pas réussi à faire entendre raison au sprinter. Si vous voulez continuer d'entendre parler vélo, rendez-vous sur la radio digitale 100% route, la libre antenne dans un instant, puis l'after tour, on disait il y a quelques instants à 19h, la radio digitale qui est à retrouver sur l'application RMC. Petit détour par Wimbledon, la deuxième manche a débuté. Eric, est-ce que ça va mieux pour Mourova?
Ça peut dépendre du point qui arrive, Christophe. Pourquoi? Parce qu'il y a 6-2, donc on le sait, pour Neskova. Un partout dans la deuxième manche. Et balle de break à venir pour Karolina Mourova. Je comprends avec les mousquetaires. J'ai entendu ça ce matin aux grandes gueules, là. Donc ça pourrait la libérer, la détendre un petit peu, parce que je la sens extrêmement crispée depuis le début de cette finale. Donc on va suivre ce point si on a le temps, avec donc Noskova qui sert à 30-40. C'est la première fois qu'elle est vraiment sous pression sur sa mise en jeu. Elle est gagnante à 170 km/h. Ça lui permet de revenir à égalité. Donc 6-2, un partout entre Noskova et Mourova.
Merci Eric, la finale de.
RMC, Intégral Tour.